Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler de la libération des centres d'extermination nazis. Avant on disait camp d'extermination, maintenant on dit davantage centre d'extermination, qu'on a soi-disant découvert à l'occasion de la libération, c'est-à-dire en 1945. Et on va voir en fait que c'était faux. C'était faux, les camps étaient connus, mais simplement on a fait croire à la population qu'on les découvrait simplement au moment de la libération. Donc la découverte des camps d'extermination nazis au sortir de la guerre, et j'en parle parce qu'on vient de célébrer le 8 mai il y a peu de temps, à l'avancée des troupes russes qui ont libéré Auschwitz et la plupart d'ailleurs des camps puisque se situaient à l'époque en Pologne, et aussi les troupes alliées qui en ont libéré un. Eh bien en fait tout ça c'est faux, les camps étaient connus, ils étaient connus. Leur existence des hauts responsables américains et britanniques. Ils étaient au courant de tout, de l'existence de ce qu'on a appelé la solution finale, de ce que les nazis appelaient la solution finale, et de ces centres de mise à mort. Alors ces centres de mise à mort, il y en a 8 centres d'extermination. Je ne parle pas des camps de concentration, je parle bien des centres d'extermination. Basé en Pologne, Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau et Majdanek. La solution finale a été mise en place de façon, si l'on peut dire, industrielle, avec des installations fixes, parce qu'il y avait bien évidemment des massacres avant, mais ces installations fixes avec les chambres à gaz et les fours crématoires, eh bien, cela date de 1941. Alors, je cite mes sources d'un excellent ouvrage de Richard Bretman avec son livre qui s'intitule « Secret officiel, ce que les nazis planifiaient, ce que les Britanniques et les Américains savaient », un bouquin que vous pouvez trouver chez Kalman Levy, qui explique donc toute la situation et que je me permets modestement de synthétiser. Alors, il faut dire qu'il y a aujourd'hui assez d'archives accessibles à Washington pour prouver que les services secrets américains étaient en mesure de se représenter correctement l'étendue de la situation dès la fin 1942. Alors ça, c'est pour les archives américaines. Il y a aussi le déchiffrage des messages SS réalisé par Londres. Les services de renseignement britanniques avaient intercepté et déchiffré suffisamment de messages radio des forces de police allemandes, mais aussi de la SS, au début de la guerre, en tout cas après 1941, sur ce sujet, mais ils ont dissimulé ces preuves essentielles. En effet, depuis l'automne 1941, le déchiffrage des codes secrets nazis permet de comprendre des dizaines de rapports clairs d'exécutions massives de communistes et de juifs menés par la police et les Waffen-SS. Ils connaissaient donc les Britanniques, entre autres les unités mobiles d'extermination, ce qui s'appelait les Einsatzgruppen, qui suivaient l'avancée des armées allemandes en Europe de l'Est et qui étaient chargés d'éliminer complètement la population juive et aussi les contestataires et d'autres catégories comme les Tziganes. En février 1942, le Congrès juif mondial à Londres adresse donc au Foreign Office, c'est-à-dire les services secrets britanniques, un rapport qui comprenait une documentation sur les persécutions nazies. Donc là, on est en 1942. Malgré ces informations, la Grande-Bretagne décida de faire silence. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'existence de ces camps de concentration et camps d'extermination qui étaient connus Et avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter la chanson de Rita Mitsouko, Le Petit Train.
Pero
Donc j'en étais donc aux informations diverses qui prouvaient en fin de compte que il existait des camps d'extermination et que les Américains, les Anglais les connaissaient. Ils n'ont pas découvert à la fin de la guerre, ils les connaissaient depuis au moins 1942. Parmi leurs sources d'informations, il y a les terribles informations des réseaux polonais par l'intermédiaire de l'organisation de renseignement du gouvernement polonais en exil. Les Anglais reçurent dès 1942 une série de rapports sur l'activité d'Auschwitz et d'autres camps d'extermination. Ces comptes rendus constituaient un complément important et une confirmation des renseignements obtenus par les services britanniques de décryptage. Le 8 juin 1942, un dirigeant du Congrès juif mondial envoie à des représentants américains et britanniques un télégramme qui dit, je cite, « Reçu nouvelle alarmante qu'au quartier général du Führer, discussion examen d'un plan selon lequel, après déportation et concentration à l'Est, tous les Juifs des pays occupés ou contrôlés par l'Allemagne, représentant 3,5 à 4 millions de personnes, doivent être exterminés d'un coup pour résoudre définitivement la question juive en Europe. » Fermez les guillemets. Donc là, on voit qu'on a une source qui d'ailleurs quantifie finalement l'immensité de ce que prévoit Hitler pour détruire toute la population juive. Le 23 mars 1943, le directoire de la résistance civile en Pologne annonça aussi qu'à Auschwitz-Birkenau, un nouveau four crématoire, en l'occurrence le crématorium numéro 4, traitait, entre guillemets traitait, environ 3000 personnes par jour, dont la grande majorité étaient des Juifs. Cette information fut transmise à Londres. Donc un autre élément en 1943 et plus tard, durant toute l'année 1943, Washington et les services secrets anglais reçurent des indications très précises sur le processus de mise à mort à Treblinka et des chiffres tout aussi précis sur le nombre de personnes exécutées à Auschwitz-Birkenau. Tout au long de l'année 1943, le flot d'informations sur Auschwitz ne s'est pas tari. Un nouveau rapport parvenu à Londres affirmait que jusqu'en septembre 1942, on n'est pas encore à la fin de la guerre, 468 000 Juifs avaient été gazés à Auschwitz. Donc des informations précises et quantifiables. Il y a également comme autre source d'information les descriptions des évadés d'Auschwitz. Les Alliés eurent donc lecture de leurs témoignages, comme leurs témoignages rédigé et expédié le 7 avril 1944, notamment de deux Juifs slovaques évadés. Leur rapport comporte des témoignages sur Majdanek, Auschwitz et Birkenau avec une série de croquis. Il dresse aussi une liste des différents convois arrivés de toute l'Europe à Birkenau. Il évalue enfin le nombre de Juifs gazés à 1 750 000. Alors, il y a eu des demandes de bombardement d'Auschwitz envoyées aux Alliés pour qu'ils réalisent donc ces bombardements en 1944. Cette demande émanait de l'Organisation mondiale des Juifs. Ils demandent à la Royal Air Force de perturber les transports de déportation par ces bombardements en bombardant donc les lignes de chemin de fer. Cette requête, comme les suivantes, reçut une fin de non-recevoir au motif que les Juifs seraient sauvés par la victoire alliée. On sait tous que cette victoire eut lieu un an plus tard. Américains et Britanniques se renvoient donc le dossier pendant tout l'été 1944, prétextant que sauver les Juifs du nazisme n'est pas en soi un but de guerre. C'est pas moi qui le dis, hein, on retrouve ça dans les archives. Dernière source d'information que je peux citer, eh bien, ce sont les photos prises par l'aviation, notamment la Royal Air Force. Un grand nombre de photos aériennes sont prises par la Royal Air Force entre avril 44 et le début 45. Elles permettent de voir l'activité d'Auschwitz et de Birkenau. En agrandissant les clichés, il est possible de discerner des personnes marchant vers les chambres à gaz. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je termine là-dessus avec une conclusion, c'est la mienne. Ma seule conclusion, eh bien, c'est que non, vraiment, la guerre n'est pas propre, y compris quand on prétend être dans le camp du bien. Et si j'ai rédigé cette chronique, c'est bien sûr avec des arrière-pensées sur, par rapport à ceux qui nous promettent une guerre dans les mois qui viennent, notamment vis-à-vis de la Russie. La guerre n'est jamais propre, y compris quand on est dans le camp du bien, et ce sera ma conclusion pour cette Seconde Guerre mondiale, mais cela vaut aussi pour les autres guerres. Et donc, je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.